18h, 19h, c'est vous qui le dites, présenté par la rédaction de Radio U.
Bonsoir à tous et à tous, vous écoutez bien, c'est vous qui le dites, la quotidienne d'info locale et citoyenne de Radio U sur le 101.1. Pour cette semaine, on vous propose des quotidiennes consacrées aux élections législatives, dont le premier tour aura lieu ce dimanche 30 juin. Pierre-Louis est allé à la rencontre de Sandrine, membre de l'équipe fondatrice de l'École alternative des Monts d'Arrée, association qui vient en aide aux migrants présents sur le territoire de Morlaix et alentour.
Eh bien, je suis actuellement à Pleyber-Christ, à l'école alternative des Monts d'Arrée, qu'on commence à bien connaître à Radio U avec Sandrine. Salut Sandrine.
Salut Pierre-Louis, ça va?
Très bien, et toi?
Bien, en pleine forme.
Alors, dans notre petite série législative un peu spéciale à Radio U, on a décidé d'aller voir des assos pour savoir comment elles se portent, comment elles fonctionnent et ce dont elles ont besoin. Est-ce que tu veux bien nous faire un petit récap de quelle est la situation pour l'asso qui s'appelle les Utopistes en Action et l'école alternative des Monts d'Arrée? Quelle est la situation vraiment? Comment vous êtes structuré? Combien de salariés? Comment ça fonctionne?
Alors, l'asso, elle a l'école, qui est sur la commune de Pleyber-Christ, qui accueille entre 10 et 15 personnes tous les jours. Ça représente trois groupes de niveau sur l'apprentissage du français. Je dirais que la majorité des jeunes qui sont ici, ce sont des mineurs isolés, donc qui se sont vus refuser à l'ASE leur âge. Contestation après une évaluation. Et ils n'ont pas de document d'identité, donc ils sont mis à la rue. Donc de là, ils arrivent chez nous. Donc nous, l'idée, en tout cas pour l'école, c'est de les remettre à niveau. Et puis de les emmener au plus vite possible vers la scolarisation, la formation, ici sur les lycées de la région, quoi. Après, on a aussi une partie hébergement. Donc on a un lieu de vie qui peut abriter environ une quinzaine de personnes. Voilà, qui est plein toute l'année. Hein. Si on pouvait avoir plus, on serait content. Ce sont que des jeunes hommes. On aimerait pouvoir ouvrir aux jeunes femmes, mais c'est pas possible sur le lieu en lui-même. Donc, on espère plus tard pouvoir aussi ouvrir une autre maison pour des jeunes femmes. Là-dessus, sur ce lieu de vie-là, les jeunes sont en autonomie. Donc, ça fait quand même 5 ans que la maison existe. Et je dois dire que ça se passe super bien. Ce sont des jeunes qui sont respectueux des lieux, qui se préparent à manger tout seuls. Il y a des plannings pour le ménage, pour l'organisation, et ma foi, qui sont plutôt bien respectés. Donc ça se passe quand même très bien. La maison est en campagne, c'est un choix qu'on a fait. La campagne, on n'y vient pas par hasard. Donc ça évite aussi certainement beaucoup de problèmes comme on peut en trouver en ville. Et puis ça les met à l'abri. C'est une bulle en fait dans laquelle on les met. Je dirais les 3-4 premiers mois où ils arrivent, c'est vraiment une bulle quoi. Sécurité, repos et puis apprendre à connaître son territoire. Donc voilà, il y a ces deux lieux-là qui sont tous les jours, 7 jours sur 7. On va chercher les gamins dans cette maison-là qui est à 15 km de l'école à peu près, tous les matins. Et on les ramène tous les soirs. Les cours sont obligatoires, donc leur présence est obligatoire sur l'école. C'est un choix qu'ils font en arrivant, en fait. Donc on a une charte qu'on leur fait signer en arrivant. Et pour nous, là, une raison qui pourrait être l'exclusion, la seule, c'est la violence. C'est quelque chose qu'on ne tolère pas. Il est bien entendu qu'on est une asso où la laïcité règne. C'est-à-dire que chez nous, on apprend aussi le droit des femmes, le respect de l'autre, pas d'homophobie, etc., etc. Donc c'est des sujets qu'on aborde quand même très régulièrement avec eux. Pour la plupart, ils arrivent de pays quand même où la culture est différente et ça peut des fois leur poser des questions. Ça leur fait surtout peur, en fait, de pas savoir comment ici ça se passe. Donc ce sont des jeunes qui arrivent et qui ont très peur des autres. Et qui vont petit à petit sortir de leur bulle, mais en tout cas, ils ont bien plus peur des gens en face que les gens ont peur de l'autre côté, quoi. Donc, voilà. Et puis, très rapidement après, ouais, ils vont vers la scolarisation, vers les formations qualifiantes. Donc, voilà. Sur les profs, il y a à peu près une vingtaine de profs qui se relayent sur des cours de français, SVT, mathématiques, très important, les mathématiques. Il y a aussi des cours de droit, hein, pour leur apprendre un petit peu les règles ici et qu'est-ce qu'on a le droit de faire, qu'est-ce qu'on n'a pas le droit, comment que ça se passe. Comprendre un peu comment fonctionne notre politique en France, leurs droits, et puis le vivre ensemble, en fait. Hein. Ils ont des cours de cuisine, ils sont aussi bénévoles dans différentes associations. Alors ça, c'est pour créer le lien, pour aller vers l'autre, pour sortir un petit peu de cette bulle là, qu'on, où on les met en arrivant. Et puis voilà, il y a tous les projets qui vont autour, dont les projets avec Radio U, par exemple. Et c'est vrai que c'est toujours ben, super chouette de les voir s'épanouir, quoi. Mais voilà, en tout cas, ça se passe bien. L'association, aujourd'hui, a 2 salariés et demi. Bon, 3 en fait, hein, on n'a pas coupé en 2, hein, on n'a pas coupé Loïc. Mais voilà, c'est ce qui assure aujourd'hui la pérennité de l'association. Ces postes-là sont financés par un particulier, donc c'est du mécénat. Hein. Il n'y a pas du tout d'argent de l'État qui arrive sur l'association. Ces jeunes-là n'ont aucun revenu, hein. Ils n'ont pas d'aide financière, donc sont complètement en fait dépendants de nous, quoi. Donc nous, on n'a pas les moyens de leur donner de l'argent de poche. Donc c'est vrai que pour eux, ça peut être difficile d'être aussi dépendant de nous, quoi. C'est pas... Personne ne souhaite être dépendant comme ça d'autres personnes, je pense.
Je précise juste que tu parlais des 20 à 30 profs qui sont évidemment bénévoles, hein, qui viennent voilà, sur leur temps. Et du coup, tu disais qu'il n'y a aucune subvention de la part de l'État. Pourquoi ? Parce que vous cochez aucune case ? Parce que vous ne respectez pas le contrat d'engagement républicain, vu que c'est des personnes en situation irrégulière, comme on dit. T'as une idée de pourquoi vous n'avez pas d'aide de l'État ?
Parce qu'on aide des sans-papiers et qu'un sans-papier n'a pas vocation à rester sur le territoire. Donc pourquoi on nous aiderait en fait à les aider à rester ? En fait, c'est un peu le reproche qu'on nous fait aujourd'hui. C'est que nous, en tant qu'asso, on les impose sur le territoire, quoi. En fait, nous, on ne se pose pas trop cette question-là. Ils sont là. Donc c'est aussi simple que ça. L'État ne veut pas nous aider. Bon, c'est leur choix. Jusqu'à maintenant, on est là. Donc ça veut dire que leur aide n'est pas non plus nécessaire. On n'a jamais fait vraiment de demande dans ce sens-là non plus. Et puis, je pense qu'on n'en fera pas. Ce n'est pas notre façon de faire. Je pense que... Voilà. On a de la chance ici, sur notre territoire, le pays de Morlaix, c'est d'être soutenu par les élus qui reconnaissent le travail de l'association. C'est-à-dire l'arrivée en formation de ces jeunes-là, les stages dans les entreprises de la région. C'est-à-dire que nos jeunes, à nous, restent installés dans le coin, travaillent dans des entreprises de la région qui recrutent. Donc là, je prends l'exemple de cette semaine, on a un jeune qui est en stage en couverture. On sait qu'on recherche aujourd'hui 17 000 couvreurs sur le territoire. Donc voilà, ce sont des jeunes qui sont suivis de près, donc on ne retrouve pas en ville à zoner, ni voilà, on est très vigilant au trafic. Donc on a des jeunes qui nous disent qu'ils sont aussi alpagués par d'autres personnes... Voilà, qui leur demande clairement de vendre de la drogue pour eux. Le fait d'être bien encadré, d'être dans une structure, ben voilà, ça évite tout ce genre de problème. Il y a aussi le soin, qui pour nous est une chose très importante. Alors ça, qu'on le veuille ou non, ben, c'est de la prévention. On a beaucoup de cas de tuberculose, par exemple. Donc si demain, ces jeunes-là sont à la rue, ça veut dire que c'est une maladie qui va se multiplier. On travaille très bien avec les services de soins. Il y a un très bon suivi sur les jeunes. Donc voilà, ça nous permet quand même de, je pense, sur notre territoire, d'éviter que des jeunes soient livrés à eux-mêmes et tombent dans une délinquance ou voilà, par faute de moyens. Donc c'est important qu'on soit là et on apporte du plus sur notre territoire.
On parle souvent de, par rapport au rôle des associations, finalement de délégation de services publics, c'est-à-dire des choses que devrait faire l'État et qu'il ne fait pas en disant « bon allez, on subventionne des assos, hop, allez-y ». Mais vous, c'est carrément vous substituer à ce que devrait faire l'État, c'est un peu comme ça que tu le vois ?
Bah, c'est clairement ça. Pour les mineurs isolés, le problème, il est simple, c'est que les jeunes qui sont mis dehors après leur évaluation, des fois, restent des semaines et des semaines dans un hôtel à Brest, sans vraiment avoir de suivi. Et en fait, ils refusent de les accompagner vers les démarches administratives de papier. Nous, on en a fait la demande plusieurs fois au département, en leur disant, bah, écoutez, effectivement, nous, on ne devrait pas exister. Si ça s'était fait, bah voilà. Et au moins, bah voilà, ceux qui sont mineurs sont mineurs, ceux qui sont pas mineurs sont pas mineurs, mais... Mais en fait, ça joue contre eux, parce que rien que depuis 2 ans, 98% des jeunes qui sont arrivés chez nous, MNA, ont été reconnus mineurs. Tout ça parce que on a fait venir les papiers du pays. Alors ça a un coût, hein, c'est 90 euros pour faire venir les papiers du pays. Ensuite, il faut aller à l'ambassade, donc faire la carte consulaire. Donc une carte consulaire, ça doit être... Ouais, il y en a pour 40 euros à peu près, quoi. On fait légaliser les documents par les ambassades pour être sûr que les documents soient authentiques. Ensuite, on retourne pour faire les passeports. Donc là, voilà. Aujourd'hui, on sait que sur Brest, la juge, elle demande, elle se base sur les documents d'identité, c'est-à-dire un acte de naissance et un jugement supplétif. Donc voilà, ça coûte 90 euros. Est-ce qu'on perd pas du temps ? Enfin, nous, on devrait même pas avoir existé, finalement, si ça s'était fait en amont. On devrait même pas être là, quoi. Moi, si demain l'association ferme parce que le travail il est fait en amont, bah tant mieux, j'ai envie de dire. On n'est pas là pour. On devrait pas exister, en fait. On peut aider, on pourrait être là en soutien aux services mineurs isolés du territoire, voilà, sur des sorties, sur des choses diverses, l'accompagnement scolaire ou des choses comme ça. Mais on devrait pas avoir à faire tout ça, en fait. C'est. Je sais pas, je comprends pas trop le système de les laisser comme ça pendant des mois dans un hôtel et puis du jour au lendemain, on leur dit ben dehors quoi. Sans leur expliquer le pourquoi du comment, ils connaissent pas les règles, ils savent pas. Les évaluations sont faites, je dirais, assez rapidement. Il y a des jeunes qui aujourd'hui se présentent, le lendemain ils sont dehors quoi. Donc sans vraiment avoir eu de discussion avec eux, c'est pas très clair quoi. Voilà, donc... Donc je pense que oui, si ces documents-là étaient faits, ben on n'existerait pas. Et tant mieux, je veux dire, enfin, ce serait une bonne nouvelle.
Aujourd'hui, quelles sont les plus grandes difficultés, les plus gros obstacles que rencontre l'association ?
Ça dépend des obstacles qu'on peut trouver. Ben, je trouve qu'en tout cas, sur notre territoire, on n'en rencontre pas tant que ça, si ce n'est de trouver l'argent, en fait. Mais sinon, je dois dire que ça se passe quand même plutôt pas mal. On a des bons liens avec les écoles, avec le milieu médical. Les jeunes sont sympas. C'est vrai, les jeunes qui arrivent, ils sont volontaires, ils ont envie que ça marche, ils font tout ce qu'il faut pour y arriver, quoi. Donc, avec les jeunes, on n'a aucun problème. C'est vraiment rare d'avoir un jeune qui comprenne pas l'intérêt d'aller à l'école. Ils ont tous envie d'aller à l'école, en fait. Ils ont tous envie de s'intégrer. Ceux qui sont passés par chez nous, ben aujourd'hui, ils sont en appartement. Ben voilà, ils se débrouillent, il n'y a pas un problème avec eux. Ils savent bien, de toute façon, qu'ils ne sont pas là pour faire des problèmes. Ils sont là pour avoir une vie normale, en fait, comme tout le monde. Donc, ce sont des jeunes qui arrivent de pays où il y a des grosses difficultés. Ça peut être la guerre, mais ça peut être aussi tout simplement la misère. C'est aussi le poids culturel, hein, puisqu'aujourd'hui, les jeunes... qui arrivent n'ont pas envie de vivre comme on leur a dit de vivre depuis plusieurs générations, se marier, avoir plusieurs femmes, ils n'ont pas du tout envie de ça, ils ont envie d'être libres. Aujourd'hui, ils ont les réseaux sociaux partout. Donc voilà, ils ont juste envie de pouvoir construire leur vie tout simplement, quoi. Je trouve que c'est de la valeur ajoutée à notre territoire qu'ils soient là. Ce sont des jeunes, pour la plupart, qui ont un respect sans limite. Pour les femmes, hein, parce que la maman chez eux, y a Dieu et au-dessus il y a maman. Donc je trouve, en tout cas avec nous les femmes, enfin voilà, ils sont juste adorables. Il n'y a jamais de manque de respect ni non. Je trouve que vraiment, par rapport à beaucoup de jeunes que je connais du secteur. Il y a beaucoup de, il y a des exemples à suivre aussi, quoi. Bon, même si le respect chez eux est arrivé par beaucoup de violence, quoi. Mais en tout cas, voilà, ils ont beaucoup à nous apprendre. Ouais, beaucoup. Ouais.
Quand je parlais de difficultés, d'obstacles, de problèmes, je pense aussi à tout ce qu'on entend, notamment sur les instituts de sondage, les résultats des votes, a fortiori en campagne, avec une montée du Rassemblement National. Je me dis que peut-être pour eux, même pour toi, ça peut être des fois des situations avec le voisinage, avec les gens du coin, de conflits, d'embrouilles, etc. Ça se passe bien aussi ?
Ça se passe très bien. Je peux pas dire. Ça fait quand même depuis 2016 que l'association existe. On n'a jamais eu vraiment de menaces. On a reçu une lettre il y a pas très longtemps, pas très jolie, mais voilà, c'était sur un cas particulier. C'était pour Alassane et la lettre venait de Paris. Enfin voilà, c'est la médiatisation qui a créé ça. Mais en tout cas ici sur le territoire, nous on ressent pas ça du tout, quoi. Moi, je pense que ça vient du fait que on est des gens du coin, que les gens nous connaissent. Et que, voilà, je pense que petit à petit, les gens ont vu aussi que cette école et l'arrivée de ces jeunes-là, ça posait pas de problème. Dans le village où on a installé la maison, et les jeunes, au début, il y a eu quand même des questionnements. On a entendu certaines choses. Mais tout ça, ça s'est apaisé, puisque il n'y a pas de problème. Donc voilà. Moi, j'ai plutôt la sensation qu'ici, les gens ont voté RN par rejet, en fait, que par racisme. Nous, on va dans les écoles, on va à la rencontre de gens un peu partout ici sur le territoire et jamais on a vu de choses négatives, en fait. Des questions, des fois, mais pas... Enfin, pour moi, les questions, c'est positif, c'est jamais négatif. Donc, on y répond tranquillement. Mais non, je peux pas dire que je ressente ça, moi, ici, sur le territoire. Non, pas du tout.
Parlons un peu d'un monde idéal. On ne sait jamais, ça pourrait arriver. Qu'est-ce qu'il faudrait à l'asso ? De quoi vous auriez besoin ? Quelle loi il faudrait faire, etc. On en parlait tout à l'heure. Tu disais dans un monde idéal, en fait, on n'existe pas parce que l'État fait son boulot. Mais peut-être que tu peux aller plus loin. Peut-être que je sais pas. Il y a justement plein de choses à faire au niveau légal, législatif, pour faire avancer les choses.
Je pense que chaque personne qui arrive sur le territoire, enfin, voilà, moi, c'est mon utopie à moi, mais je trouve qu'on devrait lui donner un document pour 2 ans, qui lui donne l'autorisation de se former, d'aller à l'école ou même de travailler, de rentrer en apprentissage, et puis au bout de 2 ans, on fait le point. On fait le point de ce qui a été fait ou ce qui n'a pas été fait, mais en tout cas, je trouve que, voilà, on pourrait donner la chance aux gens déjà de montrer ce qu'ils sont venus faire et pourquoi. Les protéger et puis leur donner le droit commun, en fait, pendant 2 ans. Et voilà, et dans 2 ans, on discute de la situation, quoi. Mais je pense que ça éviterait énormément de stress. On a aujourd'hui beaucoup de gens qui sont suivis au niveau psychiatrique. Mais en fait, c'est la violence administrative qui les emmène là, quoi. J'ai discuté avec une jeune femme ce matin qui était dans un état épouvantable parce que ses enfants sont loin, elle est là toute seule. Elle n'a pas eu le choix que de partir. Aujourd'hui, elle est dans un appartement. Ils sont je ne sais pas combien en même temps dans l'appartement. C'est l'État français. Elle est en demande d'asile. Elle est en grande souffrance. Elle est en grande souffrance. Or, on la laisserait travailler. Je pense que déjà, elle pourrait aider ses enfants au pays, se sentir moins mal de les savoir aussi loin d'elle et au moins qu'elle puisse faire quelque chose pour eux, quoi. Donc je pense que déjà, calmer la violence administrative, ouais. Alors après, frontière par frontière, moi je rentre pas dans ce débat-là, parce que voilà, chacun a ses idées là-dessus. Quand je circule, j'ai pas de soucis pour traverser les frontières, moi je traverse. Après, déjà qu'on les autorise pendant 2 ans à montrer ce qu'ils ont envie, quoi. Pour moi, ce serait ça déjà le... Et certains pays le font. En Espagne, un demandeur d'asile, il a le droit de travailler tout de suite. En France, non. Pourtant, on sait qu'on a besoin d'eux aujourd'hui. En agriculture, comment vont faire l'agriculture dans notre pays, je ne sais pas. C'est quand même l'agriculture qui est importante, l'agroalimentaire. Il y a énormément de recherches, la restauration. Ben, je pense qu'on pourrait peut-être commencer par là, quoi. Et c'est pas pour ça qu'ils piquent le travail des autres, hein, parce que ça, on l'entend aussi. Mais en général, quand les gens qui disent ça, c'est plutôt parce qu'ils ont du mal eux-mêmes et que, ben voilà, de voir quelqu'un d'étranger faire mieux qu'eux, ça les rend un peu jaloux. Donc voilà. Mais oui, voilà. Pour moi, le monde idéal, ce serait ça. Si on pouvait le faire, ce serait. L'idéal, ce serait arrêter la procédure Dublin, qui est un grand non-sens pour moi, de mettre les gens dans cette précarité-là. Pendant 18 mois, vouloir les expulser, les mettre dans une situation dramatique. Pour qui ? Pourquoi ? Au bout de 18 mois, on les laisse demander l'asile. Enfin, ça rime à rien, quoi. Rien du tout, quoi. Donc, ouais. L'arrêt de Dublin, et puis 2 ans. T'as 2 ans pour montrer ce que tu veux faire. Et je trouve que ça serait déjà pas mal.
Et peut-être avec des centres, que des cadars ressemblent un peu plus à l'école alternative que juste à ce qu'on connaît aujourd'hui, donc les cadars, les centres d'accueil des demandeurs d'asile, qui bon ressemblent un peu à des dortoirs avec des punaises de lit, quoi, si je grossis un peu le trait. C'est peut-être aussi ça, je sais pas, ton utopie, c'est l'inclusion par l'accueil, la découverte de l'autre, etc. Enfin, j'ai l'impression que c'est ce qui transpire dans ton discours.
Ben oui, on nous dit qu'il faut les mettre tous dans des grandes villes que c'est soi-disant leur demande, que voilà, donc on fait des centres avec 70-80 personnes. Moi, je trouve que c'est un non-sens total, quoi. Avant que ces centres arrivent ici à Pleyber-Christ, avant que nous on soit là, il y avait avant un CADA ici. Entre 15 et 20 personnes. Ben, entre 15 et 20 personnes, on arrive à faire des choses très chouettes. À 80, je crois pas qu'on puisse le faire. Je pense des petites structures. Quand on me dit qu'on va mettre 50 ou 60 mineurs isolés dans un lieu tous ensemble, je vois pas comment, malgré la bonne volonté qu'ils pourraient avoir, de faire bien les choses, quoi. Il y a pas de scolarisation. Enfin, voilà, c'est l'accès à l'école, quoi qu'il en soit, et des petites structures. Nous, on voit bien, on a 15 personnes voilà, logées en permanence. On a certains qui sont en famille d'accueil à côté, puis on en a d'autres qui ont eu leur papier, qui ont été reconnus mineurs. Ben, ils connaissent plein de gens sur le territoire, et puis ils veulent rester, quoi. Donc ça veut dire qu'on arrive à créer de l'enracinement. Ben, je trouve que c'est notre plus belle victoire, c'est l'enracinement. C'est quelqu'un de se dire que t'es à l'autre bout de la planète... que tu as trouvé un lieu où tu veux poser tes valises, quoi. Ben, ça veut dire que notre territoire et les intéresse, ça veut dire que ça leur plaît, ça veut dire que les gens qu'ils rencontrent, voilà, vont aussi... tout ça, ça se construit tous ensemble, c'est un projet de vie, quoi. Et donc pour moi, c'est les petites structures qui sont gagnantes. Il y a plein de petites villes en Bretagne qui peuvent le faire, je pense. Et puis ça fonctionne, quoi. Ça fonctionne. Nous, on en est la preuve. Enfin, j'ai aucun doute là-dessus, quoi. Aucun, quoi. Donc, faisons des petites structures. Donnons-leur le droit de le faire. Et puis réfléchissons à l'hébergement. Je pense qu'aujourd'hui, l'hébergement, c'est pas que des étrangers ensemble. C'est pas que des personnes âgées ensemble, c'est des lieux qui devraient être ouverts à tous, en fait, je pense. Et que chacun se rencontre et voilà, vive ensemble. Nous, on a besoin aussi d'apprendre d'eux, comme eux ont besoin d'apprendre de nous. C'est un échange culturel avant tout. Et je pense que c'est ça aussi qui fait que le RN aujourd'hui, c'est que les gens écoutent les médias et que ça fonctionne pas, puisque les médias quand même racontent beaucoup de saloperies. Nos politiques racontent pas forcément des saloperies, mais ne disent rien, ce qui est pas mieux des fois, parce que qui ne dit rien consent. Je pense que là, ils ont raté eux leur, c'est leur responsabilité aujourd'hui, je pense. Quand il y a des choses qui sont annoncées et qui vont pas donner les bons chiffres, et le contraire participe à ça. Mais voilà, je trouve que en tout cas nous sur le territoire de Morlaix. On fait un excellent travail. Les jeunes sont super chouettes. Nos élus sont derrière nous, nous encouragent. Si on a besoin d'eux, ils sont là. Donc on voit bien que quand tout le monde travaille ensemble, ben les choses se passent bien. Et tout le monde est gagnant, en fait. Ce sont des jeunes qui vont payer des impôts, qui vont payer nos retraites et qui permettent à des classes de rester ouvertes aussi et à des métiers de rester présents sur notre territoire. Donc je pense que on a tout à y gagner, en fait, contrairement à ce qu'on veut bien nous dire.
Est-ce que, pour finir, tu as un message que tu as envie de faire passer aux auditrices, aux auditeurs de Radio U ?
Ouvrez vos cœurs, ouvrez vos portes, accueillez, allez vers l'autre. Ne restez pas assis devant un BFM et vraiment allez vers l'autre, quoi. Peu importe où vous êtes, il y a forcément des gens qui sont dans cette situation-là. Vous avez peur, mais dites-vous qu'ils ont bien plus peur en face. Allez-y, quoi. Échangez, rencontrez-vous, vous verrez qu'il n'y a aucun souci, quoi. Vraiment, la bienveillance, c'est ce qui nous sauvera. Allez vers la bienveillance, ouais. Et puis venez à l'école alternative. Nous, on est ouverts. Venez voir comment que ça se passe. Venez rencontrer nos jeunes, venez rencontrer les profs. Venez faire des sorties avec nous, bougez. Mais on est là et nous, on partage. Alors, venez partager, quoi. Voilà.
Merci beaucoup, Sandrine. Je rappelle que tu es coordinatrice de l'école alternative des Monts d'Arrée.
C'est bien ça. Bah, merci, Pierre-Louis, d'être passé.
Avant que c'est bien pire après, alors en attendant, laissez-moi donc rêver qu'il existe un moyen pour arrêter le temps. La regarder sourire, la regarder danser, et puis de temps en temps, la prendre dans mes bras, lui parler d'avenir, lui faire des enfants. C'était pire avant que c'est bien pire après, alors en attendant, laissez-moi donc rêver qu'il existe un moyen de faire tomber les grands. De nous voir tous lever tous au petit matin, les filles et les tyrans. C'était pire avant, que c'est bien pire après, alors en attendant, laissez-moi admirer les forêts millénaires peuplées de longtemps. La barrière de corail, les neiges éternelles, les séquoias géants. C'est bien pire après, alors en attendant, laissez-moi embrasser la beauté de la vie au milieu du néant. Laissez-moi m'enivrer, laissez-moi m'exalter, laissez-moi chérir les plaisirs de la vie que vous dites interdits pour mieux nous asservir. C'était pire avant, que c'est bien pire après, alors en attendant, laissez-moi oublier que le monde s'effondre l'espace d'un instant. Laissez-moi respirer, laissez-moi rigoler, laissez-moi sourire. Je ne veux plus rien savoir de vos luttes de pouvoir, de vos sombres délires. Si c'était pire avant, que c'est bien pire après, alors en attendant, laissez-moi donc rêver qu'il existe un moyen pour arrêter le temps. La regarder marcher, la regarder grandir, et puis de temps en temps, lui parler de voyages, fabuleux paysages dans la course du temps. Si c'était pire avant, que c'est bien pire après, alors en attendant, laissez-moi donc rêver qu'il existe un moyen pour arrêter le temps. La regarder sourire, la regarder danser, et puis de temps en temps, la prendre dans mes bras, lui parler d'avenir, lui faire des enfants.
Deixa-me viver, deixa-me ver. Até.
On vient d'écouter « Si c'était pire » de Zoufris Maracas. Et vous écoutez toujours « C'est vous qui le dites » sur Radio U. Avant de se quitter, on va s'écouter un autre épisode de la série commune Radio Campus France intitulé « Ça arrive près de chez vous ». Cette fois-ci, Radio Campus Grenoble a rencontré le metteur en scène d'une compagnie de théâtre qui explique comment des orientations politiques et la menace de suppression de subventions ont impacté leur création artistique.
Ça arrive près de chez vous.
Ça arrive près de chez vous.
Ça arrive près de chez vous. Un programme proposé par les Radio Campus.
Ça arrive près de chez vous. Comment vont celles et ceux qui donnent vie à votre territoire ?
Je suis metteur en scène d'une compagnie de théâtre basée en région Auvergne-Rhône-Alpes qui consacre son travail à la jeunesse et à l'adolescence. Nous créons des spectacles avec des jeunes, pour des jeunes. Et nous avons un rayonnement qui s'étend à l'échelle de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Nous avons un gros volet d'action culturelle qui accompagne la diffusion de nos spectacles. D'abord, il y a un processus d'immersion au sein d'établissements scolaires, la plupart du temps, avant de créer les spectacles, puisque ce sont des commandes d'écriture que je passe à des auteurs ou à des autrices. Et donc, il y a un temps d'immersion pour comprendre, pour se saisir des sujets, pour les aborder avec des jeunes. Et ensuite, on crée le spectacle à partir de toutes ces récoltes, de ce temps d'immersion. Et ensuite, pendant la diffusion du spectacle, tous les jeunes qui viennent voir le spectacle bénéficient d'un temps d'action culturelle pour découvrir le spectacle de différentes façons, à travers des ateliers d'écriture, des ateliers jeux et d'autres ateliers que nous inventons selon les créations. Nous avons différentes sources de financement. Il y a le ministère de la Culture qui nous accompagne, il y a la région Auvergne-Rhône-Alpes, il y a le département, et ensuite il y a d'autres collectivités telles que les communautés de communes ou des municipalités. Il y a maintenant le Pass Culture pour les collégiens et les lycéens, qui est un dispositif mis en place par l'Éducation nationale et le ministère de la Culture, où chaque élève bénéficie entre 20 et 25 euros pour accueillir des ateliers dans leurs établissements. Et donc, nous répondons à des appels à projets, nous faisons des demandes de subventions auprès de ces tutelles, auprès de ces collectivités, pour pouvoir financer nos projets. On peut constater que depuis quelques années, il y a de plus en plus d'interventions des élus dans le choix de programmation des directeurs et des directrices. Les directeurs et directrices des théâtres doivent maintenant, pour la plupart, présenter leur saison aux élus, qui sera acceptée ou refusée. On peut aussi constater qu'au niveau des compagnies, le choix des projets, les thématiques des projets sont soumises à la réflexion des élus et qu'il n'est plus possible de raconter tout ce qu'on veut à l'intérieur de nos spectacles. Sinon, on perd nos subventions, on va être victime de censure, de chantage, on va nous demander de revoir notre ligne de programmation, de création de la compagnie. Ça se passe aussi bien à l'échelle locale que donc des municipalités, que des départements, que des régions. Toutes les collectivités sont touchées par ça. On peut le retrouver au niveau de la région Auvergne-Rhône-Alpes, où nous avons un président de région qui ne finance pas les projets qui ne vont pas dans le sens de sa politique, sous prétexte qu'il ne respecte pas les valeurs républicaines. Donc les compagnies sont mises en danger. Les actions qui sont financées au sein des établissements scolaires ou auprès des publics sont également concernés par ces coupes de subventions, par ces choix politiques. Et en fait, la culture devient extrêmement liée aux politiques, puisque ce sont des élus qui dirigent la politique culturelle de leur collectivité, sans aucun degré d'expertise, mais ils se servent de la culture comme un message politique. Et du coup, la liberté d'expression est menacée, la liberté de création, la liberté de diffusion des programmateurs et des programmatrices. Et cela limite le choix, le champ de création des artistes qui veulent créer des spectacles pour raconter un autre monde qui ne convient pas forcément aux politiciens. Il y a une loi de 2016 qui défend la liberté de création, de programmation, d'expression dans le champ artistique. Et on le constate quand même qu'au niveau de différentes collectivités en France, cette loi n'est pas respectée. Et après, il y a un chantage à la peur, il y a une politique de la terreur aussi pour que les compagnies et les lieux ne parlent pas de ce qui se passe à l'échelle de leur collectivité. Une menace qui est dont le premier élément est la subvention de « si vous ouvrez votre bouche, on vous coupe toutes vos subventions pendant quelques années ». C'est comme ça qu'ils maintiennent leur politique de terreur, c'est comme ça qu'ils ont la main mise en fait sur la création artistique de leur territoire. Toutes les compagnies, tous les théâtres sont concernés par ça. Tout le monde est victime de censure, sans forcément s'en rendre compte, c'est assez insidieux. Mais aussi bien les programmateurs et que les compagnies ne s'autorisent plus à parler de certains sujets. Il va être de plus en plus compliqué aujourd'hui de parler d'écologie, parce qu'on peut être considéré comme des activistes radicaux, de parler d'immigration, de parler d'anticapitalisme, de parler de décroissance, de parler de genre, de laïcité. Ce sont des sujets clivants dans la société, et les élus n'ont absolument pas envie d'ouvrir le débat sur ça et que soit représenté dans les lieux culturels de leur territoire des idées qui divergeraient de leur politique. Nous, on va se battre pour la liberté de création et d'expression, et à l'avenir, on va continuer on va essayer de trouver de la liberté dans nos projets tout en évoluant dans un milieu plein de contraintes, parce que on évolue dans un contexte économique où la culture est menacée au niveau de ses budgets, au niveau de sa liberté d'expression. Et du coup, il va faire preuve d'audace et de ruse pour contourner toutes ces contraintes. Là, le gros risque du Rassemblement national, mouvement d'extrême droite, c'est que le budget de la culture diminue, que la liberté d'expression et de création soit clairement remise en question, que cela se durcisse, que ça se retrouve à être qu'il n'y ait plus d'élus à la culture dans les municipalités ou au sein des collectivités, mais que des élus à l'événementiel, et que le champ de la création publique, que la diffusion soit extrêmement limitée. Quand je parle de culturel, moi je vais parler de compagnies, d'artistes qui viennent proposer des créations qui leur sont propres, des sujets qu'ils ont envie de défendre. Et pour moi, l'événementiel, ce sont des entités qui viennent faire de la prestation et défendre une commande qui aurait pu être passée par des clients. Quand on répond à une commande, on répond au pouvoir, et ça devient presque de la propagande. C'est un pansement social pour ne pas se poser de questions, pour ne pas voir ce qui ne va pas, pour ne pas nous interroger sur la société. Ça, c'est la première chose. Et ensuite, il y a le statut d'intermittent du spectacle, de l'intermittence qui va être remis en question si c'est le Rassemblement national qui passe. Et il ne faut pas oublier que c'est un régime qui est rentable, qui s'autofinance et qui est vertueux, qui permet l'exception culturelle française et qui permet à ce que de nombreux artistes, à ce qu'il y ait une télévision, une radio qui soit indépendante, libre et vertueuse et riche en création, et ce qui fait aussi la richesse de la France.
C'est vous qui le dites, touche à sa fin. Merci de nous avoir écoutés. On se donne rendez-vous demain, même heure, même station, pour une nouvelle quotidienne spéciale législative. Bonne soirée sur les ondes de Radio U.